poste national sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV, il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La drépanocytose, un mal qui touche 500 à 1000 nouveaux-nés par an au Cameroun. En ce 19 juin dédié à la lutte contre cette affection, le centre Pasteur de Yaoundé sensibilise les parents. Deuxième forum économique Afrique centrale, Yaoundé, capitale régionale depuis ce mercredi. L'intégration économique, le marché commun et les petites et moyennes entreprises au centre des échanges. À suivre dans le dossier du 20h, le poids du Cameroun dans la densification de cette intégration, ainsi que le rôle des PME dans le rayonnement des économies locales. Invité Jean-Baptiste Fouda, président du forum économique Afrique centrale. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, bientôt des tribunaux militaires dans toutes les régions et une loi sur la répression des actes terroristes. En sport escrime, une Camerounaise championne d'Afrique, Lorina Essomba Mbega sacrée au Maroc, son parcours en fin de journal. Bienvenue au journal En Santé ce 19 juin et journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Selon les dernières estimations, par an, 500 à 1000 enfants naissent au Cameroun avec cette affection qui constitue la deuxième cause de mortalité infantile après le paludisme. Avoir un enfant drépanocytaire, une épreuve d'endurance pour de nombreux parents, présent ce jour à la 69e session des mercredis pasteurs organisée par le Centre Pasteur à Yaoundé. Reportage Viviane Foul.
Devoir vivre avec un enfant atteint de drépanocytose, Monsieur Ayon Cyril Pierre a dû se rendre à cette évidence il y a 6 ans.
J'ai su que mon enfant est drépanocytaire quand l'enfant avait déjà environ 3 mois. Le dépistage a été fait à la naissance. Et le fait que le dépistage a été fait à la naissance a fait en sorte qu'on puisse connaître sa situation sérologique.
Cette maladie héréditaire nécessite un diagnostic précoce pour un suivi adéquat.
Quand vous avez un enfant drépano, lorsqu'il a seulement un petit palu, on doit traiter cet enfant comme s'il avait un fort palu.
La 69e session des mercredis pasteurs, consacrée à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, a permis aux experts de faire un plaidoyer sur les avancées de la lutte contre cette maladie depuis 15 ans au Cameroun. Docteur Suzanne Bellinga, médecin biologiste.
Les traitements qui guérissent de la maladie sont coûteux. C'est la transplantation de moelle, c'est la thérapie génique qui ne sont pas encore accessibles dans notre pays. Des mesures simples, il faut être bien vacciné, il faut prendre une prévention contre le paludisme, contre les infections bactériennes avec la pénicilline.
La drépanocytose reste un problème de santé publique majeur en Afrique avec près de 1000 bébés qui naissent tous les jours affectés et meurent au plus tard à 5 ans. Quand ils ne sont pas pris en charge précocement.
Bilan satisfaisant pour le programme pluriannuel de résilience. Ce projet cible les enfants affectés par les conflits dans les zones en crise. C'est dans le but d'améliorer l'accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité. Le programme est financé par une organisation non gouvernementale et court jusqu'au mois d'août prochain. La présentation de son bilan à mi-parcours était présidée par le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etoundingwa. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou. Les précisions de Marie-Claire, M. Kwapna.
Le programme pluriannuel de résilience qui se déploie au Cameroun depuis le mois d'août 2022 compte à son actif de nombreuses réalisations. Nadine Perrault, représentante de l'UNICEF Cameroun.
L'amélioration des infrastructures scolaires, la construction de certaines écoles dans les zones ciblées, la construction d'infrastructures pour l'eau, l'hygiène et la sanitation. On a fait tout un programme de formation, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Il y a aussi le programme d'alimentation dans les écoles.
Pour cette première phase, 64 communes pilotes ont été sélectionnées. Le projet, qui cible 227 000 enfants, vise à améliorer l'accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité.
On parle des enfants réfugiés, les déplacés, les enfants qui sont dans des familles avec de faibles moyens économiques et aussi les enfants qui vivent avec des handicaps.
Financé à hauteur de 25 millions de dollars par le consortium Education Cannot Wait, ce mécanisme innovant marque une étape cruciale pour le renforcement de la résilience du système éducatif camerounais. Malgré les bons points enregistrés, des efforts supplémentaires s'imposent pour combler le gap de 50 millions de dollars, d'où l'appel lancé à tous les partenaires institutionnels et les organisations internationales pour une mobilisation des fonds.
Pour l'atteinte des objectifs escomptés par le programme pluriannuel de résilience, le ministre de l'Éducation de base appelle à une synergie d'action pour tous les partenaires impliqués dans ce projet. Laurent Serge et Tundingwa, au micro de Marie-Claire, Monsieur Kwapna.
Nous pensons que les promesses qui nous ont été faites et les efforts du gouvernement dans l'agenda de ce qui doit être réalisé nous permettra de pouvoir trouver le financement additionnel qui manque, étant entendu que plus de deux tiers avaient déjà été réalisés. Et en quelques mots, les projets qui ont été engagés sont des projets du Cameroun. On ne peut pas imaginer que tout cela dépérisse au cas où le financement n'était pas là. L'appel qui a été lancé montre que nos partenaires se sont engagés à faire ce qu'il y a à faire sous la supervision du gouvernement du Cameroun.
Laurent Serge Tundingwa, ministre de l'Éducation de base. Éducation encore, 70 écoles primaires publiques transformées en écoles publiques inclusives en 2020 et le taux de scolarisation passé de 39,7% à 119% entre 2021 et 2022. Statistiques révélées ce jour à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales. Madame Pauline Irène Guéné procédait au lancement de la 34e édition de la journée de l'enfant africain, commémorée en différé au Cameroun, un moment de communion avec les enfants de différentes catégories sociales vécues à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7. Fatme Bintou Akoum.
Bonjour madame la directrice. Bonjour, que puisse faire pour vous? Je suis venue inscrire mon enfant à l'école.
L'éducation pour tous les enfants en Afrique. Le thème a résonné dans les séquences de démonstration des enfants sur la nécessité d'éduquer et d'intégrer toutes les catégories sociales. L'éducation, un droit fondamental qui facilite la réalisation d'autres droits des enfants et élimine la discrimination à l'égard de leur père. Charlotte Elisa Beth Mbiamé, participante.
La jeune fille devrait aller à l'école pour pouvoir devenir une grande personne au futur.
Des plaidoyers allant dans le sens d'améliorer l'éducation inclusive ont marqué les moments de célébration. Honorine Fumba, responsable programme protection de l'enfant à Plan Cameroun.
Notre accompagnement va dans le sens de pouvoir promouvoir les infrastructures pour que les personnes handicapées puissent pouvoir entrer en classe à travers les rames qui sont mises à disposition.
Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, en présidant la cérémonie de commémoration, a rappelé les progrès réalisés dans le cadre du respect du droit à l'éducation au Cameroun et la nécessité de capitaliser les énergies devant garantir l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité et adaptée.
Passé de 8 minutes, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Le dossier du 20h se penche sur le deuxième forum économique Afrique centrale, ouvert ce mardi au Hilton Hôtel de Yaoundé sous le thème « Intégration économique et marché commun sous-régional, investir sur les petites et moyennes entreprises locales pour leur rayonnement en zone CEMAX-EEAC ». Jusqu'au 21 juin prochain, il sera question de plancher sur les moyens de création des richesses en Afrique centrale. Augustine Bassam.
Le constat fait à l'ouverture du deuxième forum économique Afrique centrale est celui selon lequel la contribution à la création des richesses des pays de l'Afrique centrale reste faible par rapport au reste du continent. L'enjeu pour cette plateforme est de réfléchir au changement de paradigme. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basilikeng-III, instruit les experts à travailler en fonction des défis auxquels les promoteurs des petites et moyennes entreprises sont confrontés. Il s'agit notamment de rechercher des financements et de solidifier les PME. Les secteurs prioritaires étant le numérique, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Jusqu'au 21 juin prochain, les panélistes vont plancher, entre autres, sur la transformation digitale et la performance des entreprises, des solutions pour les PME de la sous-région, le développement des clusters sectoriels régionaux pour renforcer la compétitivité des PME dans la CEMAC-CEAC, les perspectives de développement d'une politique régionale en faveur des PME-PMI en Afrique centrale et comment booster l'entrepreneuriat féminin et le commerce transfrontalier en Afrique centrale. L'objectif est de promouvoir un marketing sectoriel pour la sous-région et une incitation à la pérennisation des initiatives de développement dans le domaine des petites et moyennes entreprises.
Dans cette dynamique de construction de l'économie sous-régionale, les acteurs des petites et moyennes entreprises et les promoteurs culturels jouent leur partition. Anissé Siester et Siane.
Dans la sous-région Afrique centrale, les richesses naturelles et culturelles du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale ne sont plus à prouver. Ces trois pays possèdent des produits communs qui jouent un rôle important dans l'économie de la zone CEMAC. Nathalie Mbale, promotrice des PME.
Nous avons un génie. Lorsque nous produisons, vous ne pourrez pas facilement distinguer que ceci est produit au Cameroun ou au Gabon. Aujourd'hui, on veut que les gens se mettent ensemble pour justement valoriser ces produits-là.
Les trois pays ont aussi une histoire socio-culturelle commune qui transcende les frontières. Yannick Abaissono, promoteur culturel.
Les mêmes jeux qu'on trouve au Cameroun, on les trouve en Guinée, on les trouve au Gabon. Notamment le jeu du Sango, le jeu du Ndongo. Les mêmes nous rassemblent aussi. La langue également. On a un forum qui s'appelait Momilan. Donc, des fois, on part à Oyem, on part à Bitam, à Ebebine notamment, même à Mungumo.
Preuve, s'il en faut, que le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, à travers la richesse des cultures, des traditions et l'ingéniosité des petites et moyennes entreprises, tissent depuis des lustres une toile solide qui soutient et embellit l'économie de la sous-région. Ebolova, Anissé Siestericiane, CRTV.
Au moment où le Forum économique Afrique centrale se tient à Yaoundé, il y a lieu de resituer la place de plaque tournante du Cameroun dans la densification de l'intégration en zone CEMAC. Voici le commentaire de Sylvain Yarman.
C'est la première économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, zone CEMAC. Le Cameroun est le grenier de la sous-région. Le forum économique qui a pris corps au Cameroun ira au Congo l'année prochaine après deux éditions tenues en terre camerounaise. Et parlant d'intégration, celle-ci passe aussi par l'enseignement supérieur. C'est le cas de le dire avec l'université Inter-État avec ses deux campus, l'un basé à Saint-Mélima au Cameroun et l'autre à Wissou au Congo. La pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion de la zone CEMAC se tient au Cameroun depuis 3 ans maintenant. Un hub de recherche. Le Tchad, faut-il le dire, parlant des économies, est le premier pays vers lequel le Cameroun exporte ses produits en Afrique. En 2021, soit 90,6 milliards de francs CFA de revenus engrangés par le Cameroun, selon un rapport de l'Institut national de la statistique. Le Gabon occupe la deuxième place en termes d'importateurs et la première ligne de transport fluvio-maritime professionnel a été établi entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les premiers transports professionnels par bus ont été établis, quant à eux, entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Il y a lieu d'y voir une façon pour le Cameroun de continuer de servir de cas d'école en matière d'intégration dans la sous-région Afrique centrale.
Le deuxième forum économique Afrique centrale qui se tient à Yaoundé vise à mettre en relation des petites et moyennes entreprises avec des investisseurs en provenance de plusieurs pays qui ont une longueur d'avance en termes de développement économique. Jean-Baptiste Fouda est le président de ce forum. Invité du 20h, il évoque quelques enjeux de l'événement dans l'entretien à suivre avec Blaise Anissé à Begandengue.
Jean-Baptiste Fouda, bienvenue.
Merci.
Le plus grand moment de rassemblement des pays de la sous-région Afrique centrale a toujours été les sommets, soit des chefs d'État de la CEMAC, soit celui de la CEAC lors de ces grands rendez-vous. Les questions économiques sont évoquées dans le sens d'une politique globale commune aux pays de cette grande communauté. Qu'avez-vous la prétention d'apporter de nouveau?
Alors, je voudrais dire, nous nous concentrons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, les PME. Pourquoi? Parce que la difficulté que les PME Donc, en Afrique centrale, c'est justement l'accès au financement.
Dans un contexte où le taux de mortalité des PME est très élevé, vous vous positionnez comme une plateforme économique spécifique capable de réunir les hommes d'affaires et les entreprises. Comment entendez-vous justement faire connaître les PME d'Afrique centrale tout en mettant en place des mécanismes visant à les rendre plus compétitifs face aux défis de la modernité ? Le temps de ce forum.
Alors, il faut déjà dire que le forum économique qui a lieu justement du 19 au 21, ces 3 jours seront très intenses. Ça sera l'occasion pour les PME de se montrer au monde entier. Ça sera l'occasion justement, à travers le forum économique Afrique centrale, de montrer justement au monde entier qu'il y a du potentiel. En Afrique centrale, il y a des projets qui nécessitent des financements.
Et à travers l'ouverture de ce forum, il est question pour vous de mettre en relation ces PME avec des investisseurs en provenance de plusieurs pays, soit l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Alors, qu'est-ce que ces pays ont de particulier pour que nous nous intéressions à ces pays et réciproquement?
Alors, ces pays connaissent très peu l'Afrique centrale. Ces pays veulent justement aussi, j'ai envie de dire, se positionner en Afrique centrale. Ces pays cherchent justement des marchés nouveaux. C'est aussi ça l'objectif du forum économique, c'est-à-dire de présenter des nouveaux marchés. Il y a justement ce transfert de technologies. C'est aussi montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en Afrique centrale, il y a du potentiel.
Avez-vous justement répertorié certains secteurs phares?
Nous avons des secteurs tels que l'énergie renouvelable, nous avons le digital, nous avons l'agro-industrie.
Après la grande cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que ce forum économique laisse entrevoir pour les prochains jours? Vous envoyez un message aux entreprises juniors qui nous écoutent actuellement.
Alors, de venir nous retrouver au Hilton du 19 au 21 juin, de venir s'inscrire à cette édition. Nous les voulons nombreux, nous voulons les accompagner, nous voulons des porteurs de projets, nous voulons les mettre en contact justement avec des investisseurs. Nous organiserons les B2B pour eux et nous sommes justement là pour eux.
Jean-Baptiste Fouda, vous êtes le président du Forum économique Afrique centrale. Merci et beaucoup de courage.
Merci, merci beaucoup.
Dans la suite du journal, ce communiqué de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la communauté internationale a célébré hier, comme chaque année, la journée internationale de lutte contre les discours de haine, proclamée pour la première fois par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 2021. Cette 3e édition vise à investir dans le pouvoir de la jeunesse pour lutter contre ce fléau. Dans le cadre de la célébration de cette journée, les Nations Unies invitent les gouvernements, les organisations internationales, les groupes de la société civile et les particuliers à organiser des événements et des activités de promotion des stratégies permettant de répertorier et de lutter contre les cas de discours de haine. Le gouvernement camerounais ne s'est pas croisé les bras dans le cadre de cette lutte. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tient à rappeler quelques mesures phares prises sous sa houlette pour lutter contre ce fléau, à savoir l'élaboration d'un plan de communication et de suivi-évaluation, les sorties médiatiques des membres et du secrétaire général de la Commission, une campagne de communication nationale sur la lutte contre le discours de haine et la xénophobie sur très hautes instructions du président de la République, l'organisation d'un colloque portant sur la lutte contre le discours de haine, les réunions regroupant des groupes cibles, médias, opérateurs des téléphonies mobiles, organisation de jeunes et de femmes, afin de passer en revue les différentes stratégies susceptibles de contribuer à la lutte contre ce fléau. Des descentes auprès des autorités administratives, locales, politiques, religieuses et traditionnelles des régions, afin de solliciter leur soutien dans la lutte contre le discours de haine. La mise en place d'une coalition regroupant les organisations de la société civile présentes dans les 10 régions du pays. Dans un contexte où les Camerounais se préparent à des échéances électorales majeures l'année prochaine, il convient de souligner que cette lutte doit être intensifiée en joignant le geste à la parole, en associant les mesures préventives aux mesures répressives, en mettant en relief les valeurs du vivre ensemble et de la citoyenneté en vue de consolider la paix et la cohésion sociale dans le pays. Le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ne cesse d'inviter ses concitoyens et prix de pain à barrer la route à toute forme de division. Les Camerounais doivent plutôt tirer parti de leur diversité culturelle et linguistique qui constitue un atout majeur pour la construction d'un Cameroun émergent et en paix. C'est un communiqué signé Peter Mafani Moussongue. Pour une meilleure implémentation des actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Cameroun, il est annoncé la création des tribunaux militaires dans les régions et l'adoption de toute une loi sur la répression des actes terroristes. Écoutons du reste cet extrait d'allocution du ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, extrait sélectionné par Toussaint Bemanya.
Notre pays, sous la très haute direction du président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis en place un dispositif qui nécessite certes d'être amélioré, mais qui doit également être apprécié à sa juste valeur. Sans être exhaustif, je citerai la mise en place d'une cellule de renseignement financier, la NIF, dont l'opérationnalité est conforme aux standards en la matière, l'instauration d'un tribunal militaire dans chaque région, l'adoption d'une loi sur la répression des actes terroristes, la conduite d'une évaluation nationale des risques, conclue par l'adoption d'une stratégie nationale sur la période 2021-2025 et last but not least, la validation d'un plan d'action ambitieux visant à sortir le Cameroun de la liste grise du GAFI en 2025.
Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances. L'armée mise à contribution pour lutter efficacement contre la désertification et la sécheresse dans l'extrême nord. Sous l'impulsion du ministre de l'Environnement, Élie Pierre, et du commandant de la 4e région militaire interarmée, le général de division Salim Mohamadou, plus de 1500 arbres étaient plantés ce jour à Maroua. L'activité marquait ainsi la célébration en différé de la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et pour le ministre Élie Pierre, chaque Camerounais doit s'impliquer dans la restauration de l'écosystème forestier afin de venir à bout de la désertification et de la sécheresse. Il faut donc planter un arbre et assurer sa survie. Écoutons le ministre Élie Pierre au micro de Lionel Mingué.
Ce que nous venons de poser comme geste, c'est symbolique. C'est une invitation que chacun fasse à son niveau, le même geste. Dans une famille, une personne, un arbre, c'est un appel. Parce que nous savons très bien que la vie sur cette terre dépend de la santé de la biodiversité. C'est un geste symbolique qui invite tout un chacun à planter un arbre et à surveiller jusqu'à ce que l'arbre soit grand. C'est pour le bien commun. Nous connaissons trois fléaux planétaires. Il y a la perte de la biodiversité, le changement climatique et les pollutions. Et ce que nous faisons, c'est l'un des piliers que nous combattons, c'est-à-dire la préservation de la biodiversité, qui est source de vie et nous devons vivre en harmonie avec la nature.
Élie Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Pour sa part, le ministre des Travaux Publics, maître d'ouvrage du projet de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda, porte à la connaissance de l'opinion que le 14 juin 2024, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé le financement additionnel de 30 milliards de francs CFA hors taxes destinés aux travaux de réhabilitation de la traversée urbaine de Bamenda, tronçon Amourmezam Johnson, Finance Johnson, Vétérinaire Johnson, T. Johnson, Hôpital Roundabout, Food Market, City Chemist Roundabout, Vétérinaire Johnson, sur une linéaire totale d'un peu plus de 6 km. Ce financement additionnel prend en charge l'élargissement du profil en travers de cette chaussée, de cette traversée urbaine, la faisant passer de 17 à 30 mètres à la demande exprimée au chef de l'État par les populations concernées. Il importe de souligner que les travaux de ce chaînon restant de l'axe routier Babadjou-Bamenda vont démarrer avant la fin de l'année 2024 pour concrétiser l'engagement du chef de l'État Paul Biya à moderniser les infrastructures routières de la région du Nord-Ouest, levier de la normalisation de la situation sociopolitique. L'exécution de ce pan de projet va décongestionner la ville de Bamenda et permettre de fluidifier la circulation sur cette section du corridor Yaoundé-Bamenda-Manfé-Ekok-Mfoum-Abakaliki-Enougou, 438 km, déjà bitumée. Pour assurer la continuité des travaux en cours sur la route Babadjou-Bamenda, le recrutement de l'entreprise et de la mission de contrôle en charge des travaux est engagé. Il est envisagé dans le cadre de ce financement additionnel la poursuite des activités du mécanisme de gestion des plaintes et du third party monitoring qui sont des cadres de dialogue garantissant une implication décisive des populations riveraines dans l'exécution des travaux. Il convient de souligner que les travaux sont achevés sur la section Babadjou-Matazem, 17 km, et se poursuivent avec satisfaction sur les sections Matazem-Welcome to Bamenda, 18 km, Welcome to Bamenda, École des champions, un peu plus de 4 km, et École des champions Amour-Mezam, 4 km et demi, pour une livraison compté au courant de cette année 2024. C'est signé Emmanuel Nganounjou-Messi, ministre des Travaux publics. Et à propos de l'entretien durable des routes en terre au Cameroun, vers des technologies susceptibles de rallonger la durée de vie des routes non revêtues, qui représentent 92% du réseau routier du pays. Deux experts venus d'Afrique du Sud ont présenté ce jour à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé une technologie appliquée dans leur pays est capable de mieux stabiliser les routes en terre et optimiser les coûts. Cette pratique repose sur l'usage des matériaux locaux. La présentation s'est déroulée en présence du secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, Armand Jodom. D'autres précisions avec Séraphin Dicam.
Le Cameroun a du potentiel grâce à un sol riche à même de favoriser la production des matériaux locaux destinés à l'entretien durable des routes en terre. Les deux experts venus d'Afrique du Sud pour la présentation d'une technologie et relative soutiennent cette idée. Professeur Peter Dibéou.
Ça, c'est une initiative qui répond bien aux problèmes actuels et aux soucis du gouvernement. C'est-à-dire que utiliser ce que nous on a comme le don de la nature, développer nos solutions afin de résoudre notre problème. Il y a deux impacts très importants, réduction de coûts dans la construction et la maintenance des routes. Et il y a un port substitution.
La technologie d'entretien durable des routes en matériaux locaux proposée par les experts du pays de Nelson Mandela s'appuie sur certains indicateurs.
Il y a deux approches que nous voulons tester pour le Cameroun. Approche de l'utilisation, identification, caractérisation et essai de géopolymères. Les géopolymères, c'est quoi? C'est des matériaux géologiques qui sont présents dans nos sols. Pouzoulane, par exemple. L'approche d'utilisation des éléments biologiques.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, Armand Jodom, au cours de la présentation de cette technologie sur l'entretien durable des routes en terre, a souligné la nécessité d'offrir aux populations camerounaises des routes cyclables en toute saison afin de promouvoir une croissance économique forte à l'échelle nationale et sous-régionale.
Le projet Table de paix, promouvoir la femme, la paix et la sécurité par une culture de paix et de cohésion sociale au Cameroun, mis sur pied en 2021 par l'ONG Rich Out, porte déjà des fruits sur le terrain. La foire des femmes organisée ce mercredi à l'esplanade du Musée national à Yaoundé dévoile les résultats obtenus. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenondoua, en présence du ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat. Plus de détails avec Christelle Ngbaesso.
Le renforcement de la cohésion sociale dans 40 communautés touchées par les conflits afin d'accroître la représentativité des femmes de base dans les structures de prise de décision était la bataille de Rich Out. L'implication des femmes produit des résultats appréciables.
On a regroupé les jeunes pour qu'ils commencent à vendre le bois. Ça a réuni les petits délinquants là. Par exemple, on a commencé à voir comment réduire la drogue qui cause beaucoup de problèmes et la violence à tomber. Cause l'obscurité, les gens se cachent pour faire beaucoup de mauvaises choses. Et le gouvernement nous a mis la lumière et ils ont fait ça.
Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui a suivi de bout en bout le projet se réjouit de voir ces femmes épanouies et prêtes à poursuivre leur engagement. Le projet s'achève, mais l'avenir augure des lendemains meilleurs.
Bien sûr que les communautés ont demandé à ce qu'on ne s'arrête pas là. Regardons ce que les jours à venir nous réservent.
Le Haut Commissariat du Canada se dit satisfait d'apporter son soutien à la réussite du projet Table de paix, l'augmentation globale des femmes, à la participation aux initiatives de consolidation de la paix reste une arme à conserver dans la résolution des conflits. Christelle Mbaesso dans le centre.
Le gouvernement américain, lui, s'engage à œuvrer aux côtés du Cameroun pour la préservation de son patrimoine culturel. C'est l'essentiel à retenir des échanges ce mercredi à Yaoundé entre le ministre des Arts et de la Culture, Bidou Mpat, et le directeur du patrimoine culturel des États-Unis. Les deux personnalités ont également exploré d'autres pistes de coopération en vue de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Écoutons du reste Cheikh Amadou Bamba, l'associé professionnel en diplomatie publique à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Il est au micro de Landrine Zanga.
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers son ambassade ici à Yaoundé, est honoré par la visite qu'on a eue avec Monsieur le ministre de la Culture pour discuter et travailler dans le sens de l'appui que l'ambassade des États-Unis apporte au Cameroun pour la préservation de son patrimoine culturel qui est très divers et très riche. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un honneur d'être là et de discuter de l'appui que le gouvernement américain peut apporter au Cameroun dans la conservation et la préservation de son patrimoine culturel. La suite, déjà à partir de demain, on a une session de travail avec les différents acteurs du ministère de l'Art et de la Culture pour parler et en profondeur des requêtes que le gouvernement américain a mis en place pour pouvoir préserver le patrimoine culturel, notamment dans le sens de la restitution des objets culturels du Cameroun.
Les données et l'intelligence artificielle en sciences sociales pour stimuler l'entrepreneuriat. C'est le thème de la rencontre annuelle du département de mathématiques de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1 qui se tient à Yaoundé. Le rendez-vous de 5 jours est marqué ce mercredi par la tenue de la première édition des conférences et ateliers de formation en présence des experts nationaux et internationaux sous la coordination du chef de ce département, le professeur Bertrand Tchancho. Objectif, doter les participants des capacités pour une meilleure exploitation de l'intelligence artificielle et des données afin d'améliorer la gestion et le rendement dans les administrations. L'impuissance publique dans les sociétés contemporaines, regard pluriel. C'est le thème du colloque international depuis ce jour à l'Université de Yaoundé 2. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant la deuxième semaine scientifique, une initiative de la Faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université de Yaoundé 2 en partenariat avec l'Université Paris 2 Panthéon Azas. Les nouveaux paradigmes structurels et fonctionnels de la presse écrite, c'est le thème du séminaire tenu ce jour à Yaoundé, organisé par la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. L'objectif de cet atelier est d'armer les éditeurs camerounais pour décrocher des parts de marché logées dans le cyberespace à travers la production des contenus adapté à l'écosystème numérique. Tatiana Ibodo.
La Fédération des éditeurs de presse du Cameroun met en lumière les difficultés structurelles et conjoncturelles de la presse écrite privée du Cameroun. Parfait Siki, secrétaire exécutif à la Fédipresse.
Les journaux ont des difficultés de plusieurs ordres. Il y a l'insuffisance des ventes et des abonnements, naturellement, et il y a la faiblesse des revenus publicitaires.
Cette rencontre vise à outiller et à amener les éditeurs à prendre des parts de marché logées dans le cyberespace.
Une des pistes qui nous est proposée, c'est la digitalisation. Nous voulons que les nouveaux médias soient appropriés par la presse traditionnelle, la presse écrite, pour qu'aujourd'hui on offre des contenus variés qui permettent de générer un lectorat, de générer des annonceurs, mais surtout de monétiser.
Elle a également pour but de créer des instruments susceptibles d'aider les éditeurs de presse à mettre sur pied de nouvelles stratégies d'action. Boga Sorin-Dioyoum, directeur de publication de Digital Business Africa.
Il est important de digitaliser leur contenu. Il n'y a plus simplement la version papier qui doit être mise en exergue, mais également utiliser les solutions numériques qui existent, c'est-à-dire le web et les réseaux sociaux.
Le séminaire, qui a drainé une 50aine de participants, présage à la presse écrite camerounaise d'un bel avenir dans le digital.
Cette note en politique avant le sport, la section RDP Seignan et Foumou Nord fait son introspection. Réunion d'évaluation de ses activités demain jeudi à 10h à la salle des actes de la mairie d'Ayos. Ce sera sous la houlette de son président, par ailleurs maire d'Ayos, Paul Ndongo Biko. transport, la quatrième édition du tournoi interstructure du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et des services sous tutelle a débuté cet après-midi au stade de Ngouaïkélé à Yaoundé. L'Institut supérieur de management public est venu à bout du secrétariat général du ministère sur le score de 3-0. Le chef du département ministériel explique le bien fondé de ce tournoi. Écoutons Joseph Lé au micro de Constance.
Promouvoir l'esprit de famille. Il y a le Minfopra, les services centraux et déconcentrés, il y a l'ENAM et il y a l'ISMP. Et pour justement maintenir la flamme allumée, il est bon d'organiser ce genre de manifestation. Et ça permet justement l'embrassage des collaborateurs. On travaille beaucoup au Minfopra, mais il faut de temps en temps marquer une petite pause pour se divertir, pour se relaxer un tout petit peu et repartir de plus belle. Le plus important, c'est d'abord de participer. Et ensuite, tant mieux si on peut gagner. Mais toujours est-il que tout le monde est content. Et ils se sont embrassés à la fin du match et tout. Voilà ce que nous recherchons. C'est cet esprit de famille.
Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, et puis nous vous le disions en titre, escrime, une Camerounaise championne d'Afrique, Lorina Issoumba-Mbega, était récemment sacrée reine de la discipline à Casablanca, au Maroc. Son parcours avec Jean Armstrong.
Je suis très contente. C'est les efforts d'un travail acharné après une dure saison et une dure année du côté personnel. Je suis fière aussi que ça soit la première médaille en escrime pour le Cameroun.
Lorina Issoumba-Mbega, juste après l'espoir, celui d'avoir remporté pour le Cameroun la médaille d'or en sabre dame au récent championnat d'Afrique tenu à Casablanca au Maroc. À 21 ans, l'escrimeuse a permis au Cameroun, berceau de nos ancêtres, de retentir à la scène internationale pour une discipline presque inconnue de l'environnement sportif camerounais. Née et grandie en France, tout naturellement, la jeune Lorina est en bleu-blanc-rouge dès l'âge de 7 ans dans l'escrime. Cadet, junior et senior, elle engrange des titres dans ces catégories. L'équipe nationale française l'accueille à 15 ans. Elle participe à plusieurs championnats européens et Coupe du Monde. Une vilaine blessure lui impose une pause. Ce sera le tournant de sa carrière. Lorina, dont les parents sont originaires du département de la Mofou et Afamba, répond à l'appel du cœur. Elle prend la nationalité camerounaise. De justesse, elle a raté les Jeux Olympiques de Paris, mais d'autres échéances internationales arrivent et le pays des lions indomptables devra compter avec cette nouvelle lionne. Lorina Issoumba ne souhaite qu'une seule chose, le soutien total de sa patrie dans la conquête des titres.
Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal technique. Daniel Mamia, réalisation Christine Victoria Penda, rédacteur en chef Simon Nyonga. Je suis Marie-Chantal Noah, merci. Restons avec la CRTV, les 20h passées de 37 minutes.